Et alors, Moïse, à ce moment-là, dit à Dieu, mais comment, moi, je peux leur donner ces désirs? Moïse n'est pas capable d'inventer les désirs que voulaient désirer les Hébreux. Dieu lui répond, moi, je peux. Et voilà, et c'est pourquoi Dieu dit, moi, je leur donnerai. Si leur intention était honnête, que vraiment il s'agissait de faire avancer la création, alors ils seront rassasiés du goût de la viande. Si leur intention n'était pas honnête, c'était seulement un appétit de jouissance, alors la viande leur sortira de la gorge, dit le texte. Vous vous rappelez de ça? Par conséquent, ceux pour qui c'était cachère, eh bien, la brioute, ils en ont profité. Ceux pour qui ce n'était pas cachère, ils en sont morts. Alors c'est là qu'apparaît effectivement dans cet exemple la différence entre ce qui vient du Havre, Dieu en tant que Havre, et ce qui vient de Moshe, ce qui vient du Maître. Le Maître ne donne que les choses spirituelles, par conséquent il ne peut pas donner les choses corporelles, c'est ce que Moïse dit à Dieu, d'où je vais leur sortir les désirs de viande. Moïse ne sait pas désirer les choses charnelles, si j'ose dire. Il dit, moi je peux pas. Dieu répond, moi je peux, puisque je suis leur père. Et c'est exactement, vous verrez dans le verset, la motivation de Moïse qui dit, est-ce que c'est moi qui les ai conçus? Hé Hanochi, Zéou, Hé Ritim, est-ce que c'est moi qui les ai enfantés? Ça, c'est ce que Moïse dit. Alors Dieu lui répond, oui, tu n'es pas leur Ave, tu es leur Rav, mais moi je suis leur Ave aussi. Vous voyez donc la différence entre Ave et Rav dans ce problème. C'est bien clair? Alors justement, Shema Veni Nisara Bicha, Av, c'est Akadosh Baruch. Et Torah Timecha, c'est Knesset Israël. Alors c'est là qu'on explique où et en quoi Esaü a été disqualifié par rapport à Jacob. Vous vous rappelez qu'à un certain moment de l'épisode de l'histoire des patriarches, Esaü perd la bénédiction parce que il avait déjà perdu le droit à l'aînesse, mais il perd la bénédiction aussi parce qu'il avait pris pour femme des femmes du pays de Canaan. On retrouve toujours nos problèmes. Et la Torah dit que les femmes du pays de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père et de sa mère. Par la suite, lorsqu'il s'est aperçu que c'est à cause de cela qu'il avait perdu la bénédiction et qu'il veut commencer à se repentir, alors il va chez Ishmaël, Esaü va chez Ishmaël prendre femme parmi les filles, une fille de Ishmaël. Et la Torah dit, parce que Esaü a vu que cela ne faisait pas plaisir à son père. Mais il a oublié sa mère. Voilà donc l'état du texte. Et ça signifie donc que Esaü a su, dans le courant de l'histoire, se repentir par rapport au père, mais il n'a pas su se repentir par rapport à la mère. Si nous retrouvons l'identification du Midrash, effectivement, Esaü a reconnu le Dieu d'Israël, le père, mais il n'a pas reconnu la communauté d'Israël, la mère. Et dans l'identification habituelle que nous avons de ces thèmes, ça éclaircit effectivement l'attitude de la chrétienté par rapport à Israël, d'avoir retenu de la Bible ce qui concerne le Dieu d'Israël du point de vue de la morale, mais d'avoir rejeté de la Bible tout ce qui concerne la communauté d'Israël du point de vue des mitzvot de la Torah. C'est-à-dire le repentir a eu lieu, ils savent dire aussi notre Père qui est aux cieux, le repentir a eu lieu par rapport au Père, mais pas par rapport à Israël. Ou en quelque sorte, si vous voulez, la rédemption d'Esaü ne peut s'achever que lorsque l'antisémitisme chrétien disparaîtra. Et actuellement, si vous voulez, il y a un entremêlement entre la foi des chrétiens qui concerne le Père d'Israël et la haine des chrétiens qui concerne la communauté d'Israël, c'est la mère. Enfin, je referme cette parenthèse. Je pense que c'est déjà un exemple important pour mettre en évidence cette double polarité que nous avons vu déjà souvent, entre le Av, les Avot et le Rav. En quelque sorte, c'est le Créateur par qui nous sommes reliés en tant que Olam Hazeh, à qui nous sommes reliés en tant que ce monde-ci, ça c'est la relation Av, et la Torah qui nous donnera Olam Haba, cela vient de Knesset Israël, et c'est l'autre relation. C'est important de voir Knesset Agadola, c'est le même terme, Knesset, qui est en fait. Bien, alors voilà donc les étapes de la transmission. Nous voyons que le terme « transmis » se produit deux fois, apparaît deux fois. « Moshe kibel Torah mi Sinai »« Moshe a reçu la Torah du Sinaï »« Umsara li Yoshua » et il a transmise à Josué. Il y a donc une transmission entre Moïse et Josué. C'est un premier point à noter. Et puis de cette même transmission, Josué aux juges, les juges aux prophètes, et les prophètes « Mesarua » l'Anshut Mefusa Gedola, de nouveau le terme de transmettre, les prophètes ont transmis aux gens de la Grande Assemblée. C'est-à-dire que cette Torah a été reçue à un certain niveau par Moïse, qui a transmis à Josué, première transmission. Et ensuite, cette transmission s'est transmise, si j'ose dire, s'est perpétuée jusqu'aux prophètes. Et les prophètes ont de nouveau transmis aux hommes de la Grande Assemblée, qui sont les fondateurs du judaïsme, tel que nous le connaissons depuis le deuxième royaume de Juda. Ça signifie donc que nous possédons la Torah dans la formulation que les prophètes ont transmise au Hanshut Knesset HaGedola. Est-ce que vous comprenez le principe qu'il y a là? Ça veut dire qu'il y a différents niveaux auxquels la Torah se perçoit. Et nous nous situons dans le niveau le plus inférieur, si j'ose dire, celui qui a été transmis de la formulation des prophètes à celle des maîtres de la Mishnah, finalement, l'Hanshut Knesset HaGedola. C'est-à-dire que ce terme de transmis, ou de transmettre, ici, l'imsor, n'est pas seulement employé pour le récit, pour la description du récit, mais pour indiquer qu'il y a, à cette étape précise, une charnière de transmission. Alors, par là, on explique aussi pourquoi le texte ne porte pas que Dieu a transmis la Torah à Moïse, mais que Moïse a reçu la Torah du Sinaï. La question que nous avons posée tout à l'heure. Bien, ce qu'il faut comprendre, nous explique le Maharal, c'est que celui qui transmet, transmet tout ce qu'il a à transmettre. Mais celui qui reçoit, ne reçoit que ce qu'il peut recevoir. C'est-à-dire que, inévitablement, il y a plus qui est transmis que ce qui est reçu. Et lorsque le texte commence par dire « Moïse a reçu la Torah du Sinaï », ça veut dire que Moïse ne possède de Torah que ce qu'il a pu recevoir. On ne pouvait pas dire, explique le Maharal, Dieu a transmis la Torah à Moïse, parce que ça établirait une équivalence d'envergure entre Dieu qui transmet et Moïse qui reçoit, ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire, il n'y a dans le monde de réception possible de Torah que à l'envergure de Moïse. Il ne peut pas y avoir plus, c'est la plus grande envergure, mais ceci encore n'est pas tout ce que Dieu peut transmettre. Le Maharal veut nous faire comprendre qu'il fallait dans tous les cas préserver la catégorie de l'altérité radicale entre Dieu et la créature. Le texte ne pouvait pas dire « Dieu a transmis la Torah à Moïse ». En fait, c'est ce qui s'est passé. Dieu a transmis la Torah à Moïse. Mais dans cette formule, ça voudrait dire qu'il était pensable ou possible que la Torah telle que Dieu la possède, Moïse la reçoive. Or, cela n'est pas. Est-ce que c'est bien clair? Et ce diaphragme d'envergure s'appelle Sinaï. Vous voyez, donc, maintenant, comment se dit notre texte? Moshe qui veut le Torah, ni Sinaï. On ne pouvait pas dire que Dieu a transmis la Torah à Moïse. On ne pouvait pas dire que Moïse a reçu la Torah de Dieu. Deuxième chose. On peut dire que Moïse a reçu la Torah du Sinaï. C'est Dieu qui transmet au Sinaï, et du Sinaï, Moïse reçoit. C'est donc l'indication, si vous voulez, d'un diaphragme d'envergure, si j'ose dire, qui laisse en place ce que je signalais tout à l'heure, qu'il s'agit d'une révélation. Oui, la contradiction qu'il y aurait, ou la difficulté intellectuelle qu'il y aurait dans la notion de révélation, et ce qui fait peut-être que beaucoup d'esprits philosophiques la refusent, c'est ce blasphème de dire que l'homme peut entendre Dieu parler. Vous voyez, l'intelligence humaine, en bonne part, refuse une idée de ce genre. Lorsqu'on dit, nous avons entre les mains une révélation qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient d'au-delà, qui nous vient du Créateur, alors ça laisse les gens perplexes. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des siècles où une idée de ce genre va de soi. Il y a des, comme par exemple le grand siècle ou au Moyen-Âge, lorsqu'on parle de révélation, tout le monde sait de quoi il s'agit. Enfin, dans un siècle de la modernité contemporaine, lorsque quelqu'un dit la Torah est révélée, on le regarde avec un drôle d'air, et en général, il doit prendre un drôle d'air pour dire cela. Mais, vous comprenez à peu près ce que je dis. Et d'où vient la difficulté? En particulier, c'est de ce que on n'arrive pas à concevoir qu'il y ait un passage possible entre le Créateur et la créature, par définition. L'infini et le fini n'ont pas de lien de contact. Or, c'est précisément cela, la définition même de la foi en Israël, c'est de savoir par expérience que l'infini et le fini ont contact. Seulement, il ne faut pas exagérer. Seulement, on ne peut pas dire que Dieu a transmis la Torah à Moïse. On ne peut dire que Moïse a reçu. Et plus encore, dit le Maharal, on ne peut pas non plus dire que Moïse a reçu la Torah de Dieu, parce qu'il a reçu la Torah du Sinaï. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est le Sinaï qui est, en quelque sorte, vous comprenez ce que je veux dire, le diaphragme d'envergure de la révélation. Voilà donc cette première idée, elle est très importante. Maintenant, pour notre sujet, pourquoi c'est comme ça que la Mishnah s'est exprimée? La Mishnah aurait pu dire plus facilement « Moshe kibel Torah besinai ». Moshe a reçu la Torah au Sinaï. Alors le Maharal répond. Si on avait dit « Moshe a reçu la Torah au Sinaï », tu aurais pu croire qu'on comprendrait la même chose. C'est-à-dire que Moïse n'a pu recevoir que la quantité de Torah de l'envergure de la révélation dont il était capable, c'est-à-dire au Sinaï. Mais en réalité, ça aurait voulu dire tout autre chose. Simplement, la désignation d'un lieu géographique où Moïse aurait reçu la Torah, on aurait continué à croire que Moïse aurait reçu la Torah de Dieu, totalement. Et puis c'est au Sinaï, là où il a reçu, et pas à l'Himalaya, sur l'Himalaya, au Tibet. D'ailleurs, il y a des midrashim très importants à ce sujet, des midrashim qui disent pourquoi c'est au Sinaï, la plus petite des montagnes, et pas, c'est moi qui dis, l'Himalaya, la plus haute des montagnes. Et le midrash répond des choses extrêmement importantes. Il dit parce que ne peut recevoir la Torah que celui qui se fait humble. De la même manière que le Sinaï est la plus petite des montagnes, et c'est la vertu d'humilité qui fait que Moïse a pu recevoir la Torah. Le Midrash va d'ailleurs beaucoup plus loin. C'est très important ce que je vous dis là. Il y a dans l'Himalaya des traditions très, très importantes. Hein, mais par rapport à la Torah, ce sont des traditions orgueilleuses, en ce sens qu'il s'agit toujours de ce fait, c'est Kochi Vecheliadi, c'est ma force à moi, l'homme sage et intelligent, qui fait que la révélation descend. Or, avec le Sinaï, c'est tout à fait différent. C'est l'humilité de Moïse qui fait que la révélation descend. Alors, elle descend vraiment. Et vous comprenez un peu la cohérence de ce Midrash. Et le Midrash va d'ailleurs beaucoup plus loin. Il nous dit que lorsque Dieu a voulu révéler la Torah à Moïse, Moïse a refusé en disant « Mais qui suis-je pour recevoir la Torah ?» Et puis, lorsqu'il a appris, lorsqu'il s'est rendu compte que c'est au Sinaï que Dieu allait révéler la Torah, il s'est dit « Bon, alors c'est une petite chose, je peux accepter. » Vous comprenez ce que je veux dire? Si Dieu avait annoncé 5 colonnes à la une, je ne sais pas comment on dit ça, « Je vais révéler la Torah aux hommes, sur l'Himalaya. » Alors, événement grandiose, Moïse dit « C'est pas pour moi, je suis tellement petit, moi Moïse, c'est pas pour moi une chose pareille. » Vous avez compris, hein, que c'est effectivement la vertu d'humilité seule qui peut permettre de cette chose gigantesque qu'il s'agit de la Torah du Créateur. S'il s'agit d'un sage qui est vraiment humble, alors ça passe, ça marche. Si c'est quelqu'un qui se prend au sérieux, ça passe pas. Parce que si c'est quelqu'un qui se prend au sérieux, alors là se pose la question. Est-ce que toi, l'homme, tu peux recevoir vraiment ce que Dieu a à dire? Vous comprenez le problème? Il y a d'ailleurs une Agada dans la Maseret Shabbat qui dit qu'au moment où Dieu a donné la Torah, a voulu donner la Torah dans le monde des hommes, alors il y a eu un vide dans le cosmos tout entier. Et le génie de la mer, le génie des abîmes, le génie du ciel, le génie de Terremot, affolé. Il manque l'essentiel. Le monde a perdu son âme. Dieu a retiré la Torah du monde pour la donner aux hommes. Et alors qu'ils vont... contester devant Dieu, où est la Torah? Où est la Torah? Sans la Torah, on est perdu. Vous comprenez l'idée de ce Midrash? Alors Dieu, le Midrash serait très important à lire en détail. Saint Dieu renvoie le prince de la mer au prince du ciel, le prince du ciel au prince des montagnes, etc. Et finalement, au dernier, il dit, le dernier revient, j'ai pas trouvé, on n'a pas trouvé la Torah nulle part. Vous voyez, c'est ce moment précis où dans le monde, on sent une angoisse, le monde est privé de sens. La Torah a disparu. Où est-elle? Vous comprenez ça? Et l'Occident est en train de vivre cela. Alors finalement, Dieu dit au prince de la mer Rouge, il dit, ben va voir chez Moshe ben Amram, va voir chez un certain Moïse fils de Amram. Alors le prince de la mer va chez Moshe ben Amram et lui dit, la Torah. Alors Moïse dit, quoi la Torah? Il dit, Dieu a dit que la Torah est chez toi. Il dit, moi, chez moi, Moïse, la Torah, tu te rends pas compte de ce que tu dis? Alors Dieu là-haut dit, Moïse, puisque tu as été modeste, on l'appellera de ton nom. Vous voyez quel est le problème? C'est-à-dire Moïse ne peut pas imaginer, et c'est la réaction d'Israël, le monde entier dit à Israël, alors vous avez la Torah, nous, donnez-nous la Torah. Et Israël qui répond, la Torah, nous, il n'y a pas de Torah. Vous voyez à peu près. Je crois que c'est effectivement indiqué dans ce Midrash. Ça veut dire c'est tellement colossal ce de quoi l'on parle qu'on n'ose pas en parler. Alors ça ne peut se résoudre, nous dit le Midrash, que dans la perspective de la vertu d'humilité. Si vraiment Moïse est Hana, alors il peut recevoir la Torah. Vous voyez par quel biais le Midrash l'a raconté. Quand il a entendu dire par les reporters de l'éternité que c'était au Sinaï que Dieu allait donner la Torah, il s'est dit, ah bon, c'est à ma mesure, c'est à ma portée, je peux aller la recevoir. Pris au piège, c'est vraiment la Torah qu'il a reçue. Vous voyez, c'est ça. Mais en tout cas, il y a donc une première transmission à cette envergure Sinaï. Et qu'est-ce que veut dire cette envergure Sinaï? Donc on a déjà appris que ce n'est pas simplement la localisation géographique. Le Maharal, dans son commentaire du Pirkei Avot, n'est pas tellement explicite là-dessus, mais je relirai ça avec un enseignement qu'il donne dans un de ses autres livres, et qui est Gevurot Hashem. Il dit, dans le désert du Sinaï, c'est là qu'il y avait eu la rencontre avec Jéthro. Vous vous rappelez, c'est dans au Sinaï, c'est l'endroit de Jéthro. Et on apprend précisément que Jéthro était de tous les descendants d'Abraham, le seul qui avait pu, à la suite d'une assaise très, très minutieuse, connaître et rejeter toutes les idolâtries possibles et retrouver le patrimoine de l'Echeret qui se cherchait depuis le premier homme jusqu'au temps des patriarches, jusqu'au temps d'Abraham. Jéthro était le sage de l'Antiquité qui avait su garder la morale des patriarches. Et donc l'intention, selon le Maharal, je vous répète, c'est en filigrane dans l'enseignement du Maharal. Enfin, d'autres textes éclairent de façon plus abrupte. Chez Jéthro, il y avait réussite du Derech Eretz, et nous en avons parlé, je crois, déjà à un séminaire l'année dernière. Alors c'est chez Jéthro que Moïse reçoit la Torah. Est-ce que c'est bien clair? Voilà ce qui est indiqué par le terme Sinaï. Vous vous référerez d'ailleurs au contexte de la Torah elle-même, de la Bible elle-même, enfin du Pentateuque, qui nous dit de façon circonstanciée qu'effectivement la révélation à Moïse s'est faite au Sinaï, c'est-à-dire chez Jéthro. Enfin, petite parenthèse importante à rappeler, vous savez que Jéthro est le prophète qui est considéré comme le prophète essentiel par les Druzes étant la seule peuplade pratiquement du Moyen-Orient qui a cousinage réel avec Israël. Et cette envergure de Torah qui s'appelle Missinaï, Moïse la transmet à Josué. On n'a pas dit que Josué l'a reçue, mais on a dit que Moïse l'a transmise. Ça signifie que, en tout cas, cette formulation de la Torah, telle que Moïse la reçoit à travers les catégories de la moralité, c'est celle-là, la Torah, qui va être transmise à Josué, aux juges et aux prophètes. C'est très important, voyez-vous, qu'il y a au niveau Torah en général, dans ce monde que je vous ai appelé les valeurs de la Kedusha, les valeurs de la sainteté, et qui réfèrent à toute expérience religieuse possible, il y a autant d'aventures possibles qu'il pourrait y avoir de tempérament humain, de tempérament, j'allais dire, national, puisque Israël sera mis en exposant aux 70 nations par rapport à la réception de la Torah. Ce sont toutes les aventures spirituelles qu'il est possible d'entreprendre dans ces mondes des valeurs de la sainteté ou des valeurs spirituelles en général. Une seule de ces aventures est cachère, celle qui passe à travers le prisme de la moralité. Voilà ce que signifie Sinaï. Il y a dévoilement du Kodesh. Il y a dévoilement du Kodesh, mais le seul Kodesh authentique est celui qui passe à travers le Sinaï. Toutes les autres voies du Kodesh ont été séparées de la moralité et sont ce que nous appelons Avodah Zara, le paganisme, l'idolâtrie. C'est très important. Ça veut dire qu'effectivement, il y a dans les idolâtries et dans les paganismes dévoilements, mais ribobot Kodesh, des myriades de la sainteté, dit le texte biblique, mais une seule est cachère, celle qui passe par chez Jéthro, c'est-à-dire celle qui passe par le prisme de l'exigence morale. C'est ça le secret de la Torah. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez pourquoi il était important de dire, en introduction au Pirkei Avot, « Moshe Kibel Torah Misinaï », parce que de qui va-t-on apprendre le Moussar? Qui seront les Avot, ceux qui parleront au nom de Torah Misinaï? Vous connaissez cette expression « Shiveim Panim la Torah ». Il y a 70 visages à la Torah. Ça signifie donc qu'il y a 70 visages à la sainteté. Mais la Mishnah dit, une des Mishnayot du Pirkei Avot d'ailleurs, « Ve'a megale panim batorah shelo kahalacha » C'est-à-dire, celui qui dévoile un visage de la Torah, donc de la sainteté, qui n'est pas dans l'ordre de la halakha, c'est-à-dire de la règle de la moralité, alors même si la Torah au ma'asim, c'est-à-dire même s'il a accès aux valeurs spirituelles et aux pratiques religieuses, il n'a pas part au monde à venir. C'est-à-dire le projet de la sainteté a échoué chez lui parce qu'il ne passe pas à travers le critère de la moralité. Je reviens souvent sur ce principe qui est extrêmement important, c'est le secret d'Israël, que la religion et la morale c'est la même chose. Mais il ne faut pas tomber dans toute une série de pièges qu'il y a dans cette formule, de se dire par exemple, puisque la religion et la morale c'est la même chose, alors ça suffit avec la morale, la religion c'est pas nécessaire puisque c'est la même chose. Ou bien ça suffit avec la religion, la morale c'est pas nécessaire puisque c'est la même chose. Mais comprenez bien, en réalité la morale et la religion c'est pas la même chose. Mais il faut faire que ce soit la même chose. C'est plus exactement cela, ce que je vous dis. Est-ce que c'est bien clair hein? C'est ça donc, Moshe Kibel Torah Mesinaï et Umsara Yoshua, Yoshua Liskeni Muskeni Vimbim, Umbim et Savoua d'Anchekne Satagedola. Pourquoi depuis Josué jusqu'à Anchekne Satagedola il n'y a pas eu de Masora, donc de reformulation, de retransmission, mais à partir seulement de Anchekne Satagedola, je veux dire entre les prophètes et les Tanaïs. Que se passe-t-il? Eh bien, Josué a donc une certaine envergure à lui tout seul. Il est capable tout seul de recevoir la Torah que Moïse transmet. On ne nous dit pas qu'il a tout retenu de ce que Moïse a transmis. Et justement, nous avons des Midrashim qui nous enseignent que, à la mort de Moïse, toute une épaisseur de Torah s'est perdue et qu'il a fallu ensuite reconstituer par le raisonnement ce qui avait pu avoir été perdu. Vous comprenez ce que je veux dire là? Mais pas n'importe qui peut reconstituer par le raisonnement, c'est ceux qui avaient recueilli ce qui n'était pas perdu. Il faut qu'il y ait une trace du reste pour que le reste soit reconstitué. Ça me fait penser aux savants de la préhistoire qui vous redessinent les paysages zoologiques de la préhistoire à partir d'une vertèbre. Mais il faut au moins qu'il y ait la vertèbre. S'il n'y a pas de vertèbre, on ne peut pas reconstituer. Et donc effectivement, entre Moïse et Josué, il y a une déperdition considérable. Et encore une fois, il ne s'agit même pas de contenu, mais de niveau, d'envergure, de perception de la Torah. Moïse reçoit la Torah comme elle est dans le ciel, à la manière du seul homme qui est capable de monter jusqu'au ciel et de redescendre. Hein? Moïse est, dit le Maharal, il est tzura nivdelet, c'est-à-dire il est presque comme s'il n'avait pas de corps. Vous vous rappelez tout à l'heure, incapable de faire exaucer la prière des Hébreux parce qu'il ne comprend pas ce qu'ils demandent. Quand les Hébreux demandent de la viande, Moïse ne comprend pas. Hein? Parce qu'il est déjà très haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Avoir envie d'avoir envie du goût de la viande. Moïse dit ça, je peux pas. Dieu dit, moi ça je peux. Vous rappelez de cette parole. Et de cette envergure si haute que Moïse a atteinte, eh bien, ce n'est pas encore la Torah telle que Dieu la connaît, et nous savons donc quel est le critère de définition, c'est la Torah telle qu'elle présente un visage qui va commencer à s'incarner pour les hommes de ce monde-ci, dont le besoin le plus urgent chronologiquement, c'est d'abord la morale. C'est une kedusha orientée vers la moralité. Si vous voulez, la pureté du sacré, c'est la moralité. Le sacré peut être impur. C'est cela, l'idolâtrie. Et le critère de pureté du Kodesh, c'est la moralité. C'est la grande différence entre les prophètes d'Israël et toute expérience de prophétie, quelle qu'elle soit, fût-elle ancienne ou fût-elle moderne. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est par l'expérience de la drogue qu'on essaye de s'introduire dans les mondes de la révélation. C'est impur. Il a paru il y a quelques mois dans l'Arche un article là-dessus. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Je dois vous dire d'ailleurs que la rédaction de l'Arche, avec beaucoup de courtoisie, m'avait envoyé cet article avant qu'il ne paraisse pour que je fasse un chapeau ou un commentaire. Ça m'a paru tellement énorme, cette histoire, que je n'ai pas voulu mêler mon nom à cela. Enfin, bien entendu, si j'avais fait un commentaire, c'était pour être contre. En tout cas, je vous le dis à vous, puisque vous êtes là, c'est la définition même du paganisme. Hein? Entrer dans les mondes de la révélation avec la drogue, c'est exactement « sam mavet ». « Im zakha sam haim, im zakha sam mavet ». C'est « mamash » là. Et alors, en tout cas, je dois vous dire, il y a référence à des kabbalistes américains ou à des chassidim américains, qui, tout ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ce sont des drogués qui étaient d'anciens échivistes ou d'anciens élèves d'école juive et qui ont essayé de faire un lien entre leur leurs fantasmes et leurs exigences de spiritualité, mais en tout cas, rassurez-vous, c'est complètement faux. Il y a d'ailleurs à Jérusalem tout un petit groupe de hippies de ce genre, on les appelle là-bas les hippiesim chassidim, et j'en connais quelques-uns, voilà. Ils sont barbus et j'allais dire déshabillés, parce que la manière dont ils s'habillent, et avec six titans dehors, des barbes plus grandes que les nôtres, et tout ce que vous voudrez, hirsutes, et très pieux d'ailleurs, mais ce sont des hippies en voie de désintoxication et qui ont été récupérés par Karl Barth, qui est leur rabbin, comme vous le savez, là, vous êtes au courant de ces choses-là. Enfin, tout ça est encore très 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 trouble, mais c'est une entreprise de tchouva et pas du tout l'inverse. Hein? Ce sont des drogués qu'on a ramenés à la Torah, et pas du tout des gens de Torah qui cherchent la révélation par la drogue. Vous avez bien compris ça. Comme d'habitude, c'est d'Afka le contraire. Eh bien.
Ça fait beaucoup de mal, quand même,
ça fait du mal.
Ça fait beaucoup de mal.
Bon, alors vous me donnez des remords, parce que j'aurais peut-être dû...
Ils ont pas du tout publié
cette date. Ça,
ils sont... Mais Bintrimatour a beaucoup de jeunes,
oui.
Soi-disant, de se couvrir avec le...
Oui, je m'en doutais, mais enfin, je voulais absolument pas attacher mon nom à ces histoires-là. Enfin, quoi qu'il en soit, bon, peut-être qu'on interviendra. Bien, alors en tout cas, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Oui, il y a donc des aventures de la sainteté qui sont impures, et le critère de pureté s'appelle Mishina. Bon, c'est bien clair. Alors ensuite, une même transmission à Josué d'abord, et Josué a été capable de recevoir la Torah telle que Moïse l'a dit, parce qu'il n'était pas seulement un des disciples de Moïse, comme ont été tout le peuple d'Israël à l'époque. Il y avait un lien personnel, un lien direct de personne à personne entre Moïse et Josué. Josué était le Mesharet de Moïse, c'était son shamash. Hein? Et par conséquent, il était en intimité dans la vie de ce monde-ci avec Moïse. Par conséquent, il pouvait comprendre la Torah telle que Moïse la comprenait, avec la différence d'envergure qu'il y a entre Moïse et Josué. Le Midrash dit la différence était la même que celle qu'il y a entre la lumière du soleil et la lumière de la lune. La face de Moïse resplendissait comme la face du soleil, et la face de Josué comme la face de la lune. C'était la même lumière, mais atténuée par le passage par la lune. Et puis vous comprenez tout ce qu'il y a symboliquement d'ailleurs dans cette comparaison. Et ensuite, cette même Torah, telle que cette fois Josué l'a transmise, est passée aux juges, puis aux prophètes. Et les prophètes, à ce moment-là, ont donné une reformulation au Hatché Knesset Agadol. Voilà pourquoi il y a Umsar al Yoshua, et ensuite Unbihim et Sarura, le Hatché Knesset Agadol. Vous y êtes? C'est bien clair. Et pourquoi? Et y a-t-il une nécessité au moment de Hatché Knesset Agadol à reformuler ainsi? Voilà, alors c'est là que nous abordons la manière dont le Moussar est enseigné dans le Pirkei Avot à partir de Hatché Knesset Agadol. Entre Moïse et Josué, ce qui nous est enseigné, c'est une différence de capacité, une différence d'envergure. La lune est claire, mais elle est claire, si j'ose dire, pendant la nuit, tandis que le soleil est clair pendant le jour. C'est pas une blague. Hein? C'est la même lumière, mais l'envergure est différente, l'intensité est différente. Et puis, on voit que Josué a été le seul à pouvoir recevoir et transmettre à l'échelle individuelle. C'est un moment extraordinairement important de l'histoire d'Israël.